perkeleen tontot!
Quel plaisir de vous retrouver sur Bac FM 106.1 pour l'émission Metal Check Miloud. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro. Check Miloud fait son retour après une petite pause de début d'automne, comme chaque année, hein, vacances oblige. Mais je suis de retour pour vous proposer une petite sélection de choses qui sont sorties durant cette période, plus particulièrement. On reviendra un tout petit peu plus loin aussi, hein. Je crois qu'on va remonter jusqu'au 19 octobre. Il y aura la sortie du moment et une sortie pour ce jour seulement. On va arriver dans une période un petit peu creuse, mais vu le nombre d'albums qui sont arrivés durant le mois d'octobre, je pense qu'on a de quoi s'occuper. Pendant un petit moment, il y a eu de très très bonnes choses ces derniers temps. Pas toujours les groupes les plus connus, mais vraiment, on a eu de très belles sorties d'albums. Donc voilà, il y en a une petite sélection pour cette semaine, on en aura une autre pour la semaine prochaine. Et bah, l'album du moment, je vais pas vous cacher que ce sera Mass Hysteria, puisque c'est mon album coup de cœur depuis sa sortie le 26 octobre. On terminera notre émission avec la rubrique 20 ans dans tes dents, pour qui est née à l'occasion de l'anniversaire de Check Miloud, qui fête cette année ses 20 ans. Et une émission sur deux, eh bien, on fait un petit retour en arrière pour s'intéresser justement à ce qu'on écoutait à cette période-là, il y a 20 ans. Et aujourd'hui, ce sera un groupe français. Donc on ouvre avec du français, on fermera avec du français. Entre-temps, on aura des groupes aussi bien américains, allemands que scandinaves. Vous allez voir tout ça. On parlera aussi de Slipknot en milieu d'émission. Voilà un petit peu ce qui nous attend pour la prochaine heure. Et donc, il est temps d'entamer les hostilités avec cette fameuse sortie du moment, le nouvel album de Mass Hysteria qui s'appelle Maniac, qui a déboulé le 26 octobre. Et c'est une grosse bombe. Il y avait déjà eu les deux baffes monumentales qu'avaient été les albums L'Armée des Ombres en 2012 et puis Matière Noire en 2015. Et ben là, Mass Hysteria nous assène l'uppercut final avec ce Maniac qui s'inscrit d'ores et déjà parmi les chefs-d'œuvre du combo. Mais avant d'en parler un petit peu plus en détail, on va quand même dire quelques mots sur la formidable carrière de Mass Hysteria, une carrière qui débute à Paris en 93. Le groupe se crée notamment autour du frontman Mustapha Kelaï, que tout le monde surnomme Mousse, qui en plus de posséder un charisme immense, eh bien, est une des plus belles plumes de la scène rock metal française. Je trouve perso qu'avec Renaud de Lofofora et Kemar de No One, c'est vraiment les plus belles plumes de cette scène metal en France. Ils ont vraiment, ils savent écrire avec une justesse, avec de la poésie, ils savent utiliser les termes qui claquent. C'est pour moi les trois meilleurs. Après, il y en a sûrement d'autres, mais voilà, c'est ceux qui me viennent tout de suite en tête à ce moment-là. Donc pour ce qui est du style de masse, eh bien le groupe explose en pleine vague néo-métal, période durant laquelle la scène française va connaître une effervescence sans pareil. Ça va donner naissance à ce qu'on va appeler la Frenchcore. Alors la Frenchcore, c'est une étiquette un petit peu fourre-tout qu'on va coller à toutes ces jeunes formations qui vont révolutionner le metal made in France. Et Mass Hysteria, qui donne au départ plutôt dans le metal indus, metal fusion, va rapidement devenir un des fers de lance de ce mouvement, avant de connaître différentes évolutions, différentes mutations, dont certaines, faut bien l'avouer, seront des ratages. Hein. Et justement, pour se rendre compte de ce qui a fonctionné ou pas, il suffit de jeter un œil sur la discographie du groupe, qui compte actuellement 9 albums. Alors le tout premier, c'était Le Bien-être et la Paix, c'est en 97, et c'était surtout un bon avant-goût de son album culte Contradiction, qui lui va débarquer en 99, qui va devenir un véritable phénomène grâce à des titres qui vont être mythiques, hein, comme par exemple Furia, qui est encore joué actuellement en live et qui fait encore un tabac pendant les concerts. En 2001, on va avoir un nouveau coup de maître pour Massisteria qui va dégainer de cercle en cercle. Alors là, c'est un véritable petit bijou qui est produit par l'américain Colin Richardson. Le disque connaît un succès gigantesque. Le combo parisien est au sommet de son art, mais la suite va être un petit peu plus chaotique puisque le groupe va choisir d'évoluer vers un son plus pop-rock et ils vont pas arriver à convaincre quoi. Les trois albums que seront Massisteria en 2005, Une somme de détails en 2007, Faille en 2009 seront bien loin de faire l'unanimité, mais voilà, le groupe est loin de jeter les armes et ils vont contre-attaquer avec L'Armée des Ombres et Matière Noire, deux albums qui vont être plébiscités et qui vont relancer la machine de guerre. Justement, là, on retrouve Massisteria puissant comme jamais, ils font un retour absolument triomphal avec l'album Maniac. C'est certainement leur album le plus rapide, le plus sombre, le plus extrême. Le groupe ne relâche la pression que sur le dernier titre, sinon c'est, voilà, ça s'enchaîne, mais c'est assez hallucinant, on a à peine le temps de respirer. Donc le disque a été enregistré et produit de nouveau par le guitariste Fred Duquesne. Et puis ensuite, c'est à Nashville que le tout a été masterisé par Ted Johnson. Alors il a bossé pour les plus grands, vous irez voir son palmarès, mais voilà, je vais pas donner de nom parce que la liste serait vraiment trop longue. Que dire d'autre ? Eh bien, si ce n'est que la musique est d'une puissance époustouflante, les paroles, elles, n'en sont point moins éblouissantes. D'ailleurs, le titre de l'album, Maniac, peut lui-même s'entendre de deux façons, puisqu'on peut l'entendre Maniac en un seul mot, comme il est écrit sur la pochette. Maniac, synonyme d'obsession, ou en deux mots, ma plus loin niac, du fait de rien lâcher, mais pour en revenir parfois jusqu'à l'obsession. Donc voilà, deux mots qui se lisent de façon différente, mais qui ramènent à cette même ténacité. Et s'ils sont beaucoup moins engagés que sur les deux albums précédents, eh bien les paroles de Maniac sont quand même très intenses, percutantes, très poétiques aussi. Ici, c'est de la fraternité et de ce qui nous unit dont Mass a choisi de nous parler. C'est pour cette raison que la politique, la religion sont très peu présentes dans ce nouvel album. Mais assez parlé, il est temps d'écouter un extrait de l'album Maniac, qui d'ailleurs est un très gros carton en termes de vente. On écoute le morceau Reprendre mes esprits, c'est celui qui ouvre le disque, c'est parti. C'était Mass Hysteria à l'instant sur Bike FM dans l'émission Check Me Load. Vous venez d'écouter le titre Reprendre mes esprits, un extrait de l'album Maniac. Alors j'espère que vous n'avez pas perdu vos esprits durant cette chanson qui, voilà, qu'on envoie plein la tête, c'est magnifique, c'est un véritable feu d'artifice. C'est presque tribal, ça prend aux tripes, c'est Mass Hysteria et c'est vraiment un excellent album que Maniac. Je vous dis, hein, tout s'enchaîne, les chansons, enfin voilà, on n'a pas le temps de voir le tout défiler jusqu'à la dernière chanson qui, elle, est beaucoup plus posée, qui, selon les dires du groupe, pourrait peut-être être un avant-goût de ce qui viendra après. Mais voilà, il est encore beaucoup trop tôt pour s'intéresser à l'avenir. On va profiter du présent avec cet album Maniac à découvrir de toute urgence. J'ai une sortie du jour quand même à vous proposer. Un groupe de heavy metal, de hard rock allemand. Un groupe qui existe depuis 30 ans. C'est le groupe Axis qui sort aujourd'hui un album intitulé Monster Hero. Alors c'est un groupe qui a connu un très gros succès ses débuts à la fin des années 80, début des années 90, qui a toujours continué à sortir des productions, mais qui, voilà, a pas eu une visibilité extrêmement large. Donc Axis voit le jour à Dortmund en 88. Il a été créé notamment par le chanteur-guitariste Bernhard Weiss, qui est le chanteur-guitariste tout simplement. Et puis il y a aussi le clavier Harry Hollers. Alors lui, il n'était pas là au départ, il est arrivé en 1990, et tous les deux, en fait, ils sont les principaux compositeurs et producteurs du groupe. Donc Axis, je vous l'ai dit, on est entre heavy metal et hard rock. C'est un groupe qui va gagner le cœur du public dès son premier album studio, qui s'appelle Kingdom of the Night, qui sort en 89 et qui va s'écouler à 150 000 exemplaires. Alors, mis à part Scorpion, c'était très très rare de faire des chiffres aussi élevés quand on était un groupe allemand à la fin des années 80. Les deux albums suivants, ça va être Axis 2 en 90 et puis The Big Thrill en 93, deux albums qui vont connaître également un succès très très important, même si ce dernier va marquer un tournant dans la carrière du groupe qui va prendre une envolée un peu internationale. Ils vont d'ailleurs faire une grosse tournée, ça va beaucoup marcher, particulièrement au Japon. Et à ce jour, eh bien, il y a 16 albums au compteur d'Axis, qui est un groupe relativement prolifique. Malgré une discographie, il faut bien l'avouer, qui est quand même assez inégale, selon les disques, selon les expérimentations du combo, qui, comme Mass Hysteria, sont pas toujours réussis. Alors justement, le 16e album d'Opus, il s'intitule Monster Hero, il est dans les bacs depuis aujourd'hui, et nos vétérans du power metal nous balancent 12 nouvelles compos qui sonnent comme un retour aux fondamentaux du heavy. Ça va mettre en joie tous les amateurs de la scène teutone, hein. Vous pouvez me croire. Monster Hero, c'est un album authentique qui transpire la passion mais aussi le savoir-faire de nos musiciens qui ont choisi à travers ce disque de s'intéresser à ces monstres qui dirigent en ce moment notre monde et pourquoi, pourquoi les peuple se dirige vers ses extrêmes. Les textes sont sombres, mais la musique est comme d'habitude super entraînante. En voici justement un extrait, c'est le morceau titre Monster Hero. Voici tout de suite Axis sur Bac FM. Truth are killed by lies, they shout. Monster Hero du groupe allemand Axis à l'instant dans l'émission Check Me Load. Un morceau qui sonne très scorpion de la toute fin des années 70, tout début des années 80. Après tout, ils sont issus de la même scène, alors à quelques années d'écart, puisque Axis, ça n'est que la fin des années 80. Très bon album, donc, que ce Monster Hero, pour tous ceux qui aiment, voilà, ce mélange de hard rock, de heavy, bien envoyé, des musiques bien entraînantes, quelques textes un petit peu sombres, qui racontent des choses, voilà, qui s'intéressent vraiment à notre monde contemporain. C'est un album que je vous conseille également. On va changer radicalement de style, même si on va rester en Allemagne. Pour le groupe suivant au programme de cette émission Check Me Load, vous êtes sur Bike FM, et comme vous le savez, le vendredi, le métal fait son show, hein, sur Bike FM. On va s'intéresser au groupe The Ocean, qui a sorti il y a une semaine un album. Alors le nom, je vais essayer de pas l'écorcher, pourtant c'est pas que ce soit en scandinave ou quoi, c'est un petit peu compliqué. L'album s'appelle Phanerozoic One Paléozoïque. Alors, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Juste avant, je vais quand même dire deux, trois mots sur The Ocean. C'est un groupe qui nous vient de Berlin, qui existe depuis 2001. D'ailleurs, c'est pas vraiment un groupe, c'est plutôt un collectif qui a été fondé par le guitariste Robin Stapps. Et c'est un collectif qui a vu défiler un nombre assez incalculable de musiciens en ses rangs. Même si le line-up de la formation s'est quand même finalement un peu stabilisé depuis l'arrivée en 2009 du chanteur Loïc Rossetti. Et il s'est même bien stabilisé depuis, on va dire, 2013. Alors, avec The Ocean, on est sur un mélange de post-metal, de sludge, de métal progressif et de post-hardcore. Jusqu'à présent, ils avaient sorti 7 albums, parmi lesquels quelques pépites, comme par exemple le diptyque que constituaient les albums héliocentrique et anthropocentrique, qui était paru en 2010, qui en fait représentait une critique philosophique et fondamentale de la chrétienté. Et bah justement, puisqu'on parle de pépites, en voici une nouvelle avec ce fameux Phanerozoic One Paléozoic qui est paru vendredi dernier, qui marque surtout le début d'un nouveau cycle pour The Ocean, puisqu'il s'agit là d'un premier volet qui sera complété d'un second. Alors le second devrait voir le jour d'ici, je crois, 2020. Et cette fois-ci, c'est du funeste sort qui attend notre planète si on réagit pas tout de suite qu'aborde la formation, en prédisant la fin de l'espèce humaine à travers une œuvre vertigineuse, intense, cosmique, qui est aussi riche en mélodie qu'en émotion. Alors voilà, tout ça, c'est retranscrit à grands coups de guitare, tantôt désespérée, tantôt guerrière, à grands coups de clavier aussi, avec des sonorités presque spatiales. Et puis, il faut également souligner les prouesses vocales de Loïc Rossetti, qui est absolument impériale. Alors, c'est vrai que la musique de The Ocean, elle est pas toujours très facile d'accès, mais ce qui est sûr, c'est que c'est beau, c'est grandiose, et on va tout de suite écouter un extrait de cet album Phanerozoic One Paléozoic, avec un titre qui est aussi à rallonge, puisque ça s'appelle Ordovicium, The Glaciation of Gondawa.
Cracks up in all the
Ocean sur Back FM dans l'émission Check Me Load. Vous venez d'écouter le titre Ordovicium, The Glaciation of Gondawa, un extrait du nouvel album du groupe allemand, un album qui s'appelle Phanérozoic One Paléozoic, premier volet donc d'un diptyque dont la deuxième partie devrait paraître d'ici 2020. Voilà pour The Ocean et sa musique aussi puissante que subtile, ce mélange de post-hardcore, post-metal, sludge, prog. C'est vraiment très très bien fait, c'est un album aussi à découvrir. Ben voilà, si vous n'avez pas peur de prendre une œuvre dans son intégralité et puis de lui laisser un petit peu de temps pour vous vraiment vous en imprégner, à chaque fois vous allez voir qu'à chaque réécoute vous allez redécouvrir des petites choses qui voilà, auxquelles vous n'aviez pas prêté attention, et c'est comme ça aussi qu'on reconnaît les vrais chefs-d'œuvre. Autre groupe plutôt singulier dans le paysage métal qui a sorti un nouvel album le 26 octobre, eh bien, il s'agit du groupe Shining. Alors, des groupes Shining, il y en a deux. Il y a un groupe norvégien et un groupe suédois, si je dis pas de bêtises. Et nous, c'est le groupe norvégien qui nous intéresse aujourd'hui. Et Shining, donc, issu de Norvège, a sorti fin octobre l'album Animal. Et c'est pareil, hein, avec Shining, là, on part sur quelque chose de totalement différent de ce qui s'était fait sur les derniers albums. Là encore, ça mérite que je m'explique un petit peu. Alors donc, juste trois mots sur Shining. C'est un groupe qui nous vient d'Oslo, qui est fondé en 99 par le saxophoniste et multi-instrumentiste Jørgen Munkeby. Et d'ailleurs, il en est le seul membre permanent depuis le début. Actuellement, le line-up du groupe, il se compose également de Håkon Sagen à la guitare, Eirik Tofsrud Knutsen au clavier, Tobias Ernst Andersen à la batterie et Ole Vitsnes à la basse. Et Shining, eh bien, c'est du métal avant-gardiste avec un grand M. Et là encore, ça mérite quelques explications. Alors, lors de sa création, Shining, c'est un groupe de free jazz instrumental. D'ailleurs, pour en témoigner, on peut écouter les deux premiers albums, hein, Where the Wrecked People Go, qui était sorti en 2001, et puis Sweet Shanghai Devil en 2003. Et à partir de l'album In the Kingdom of Kitsch, You Will Be a Monster en 2005, eh bien, la musique du groupe va évoluer vers un son plus avant-gardiste, plus électrique, plus orienté rock aussi. C'est d'ailleurs qu'un début, hein, puisque Grindstone, qui arrive en 2007, on bascule sur autre chose. Shining va prendre une direction de plus en plus lourde, va s'éloigner de plus en plus du jazz des débuts, avec l'ajout de sonorités qui vont être empruntées cette fois au rock progressif, à la pop, à la musique classique contemporaine. Mais le vrai basculement, ça va se faire avec l'album Black Jazz en 2010, et là, on peut dire que Shining verse du côté obscur du métal, notamment avec l'utilisation de la voix grondante de Munkeby. Alors le son du groupe va devenir beaucoup plus dur, plus intense que jamais, une tendance qui se confirme avec 111 en 2013, et puis avec l'excellent International Black Jazz Society en 2015, deux albums qui vont recevoir de nombreuses critiques élogieuses, à la fois de la part de la presse consacrée au métal, mais aussi de la part de la presse consacrée au jazz. Mais voilà, hein, la force créatrice du groupe, qu'est Jørgen Munkeby, aime surprendre, expérimenter, aller de l'avant. Et puis surtout, il avait, selon ses dires, fait le tour de ce blackjack qu'il avait forgé. Il était grand temps donc pour lui de passer à autre chose. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec Animal, c'est un virage à 360 degrés que prend Shining, qui tutoie cette fois-ci l'esthétique pop-rock, se faisant plus proche de Muse que de Meshuggah, avec des titres qui sont courts, efficaces, avec des refrains totalement what the fuck, qui sont pas d'ailleurs sans rappeler un certain Ghost. Alors au premier abord simpliste et criard, comme le sont les couleurs fluo de la pochette, Animal s'avère au final bien plus complexe et sombre qu'il y paraît, même si les morceaux sont totalement jubilatoires, ça on peut pas revenir là-dessus. Aucun doute que Munkeby a réfléchi chaque note et chaque détail de ce nouvel album, qui se revendique totalement clivant, qui manquera pas de provoquer aussi bien l'admiration pour certains que le choc anaphylactique chez d'autres, hein, ça c'est couru. À vous de choisir votre camp maintenant, et pour vous faire un petit début d'idée, on va écouter le morceau titre Animal. Voici tout de suite justement nos animaux fantastiques de Shining sur Back FM.
Now, 3, 2, 1, drink another one, get me.
vous avez pas dit que c'était complètement badass que ce nouvel album de Shining, on vient d'écouter Animal sur Bike FM dans l'émission Check Me Load, un morceau qui fait très métal alternatif, un peu à l'américaine. Ce genre de morceau là fait par un groupe de métal alterno américain, on dit que c'est un groupe qui est taillé pour les ondes radio de là-bas, hein. Chez nous c'est un petit peu plus compliqué, et voilà, c'est un peu ça Shining, ils sont partis dans cette direction avec des morceaux totalement efficaces, des morceaux voilà, mais voulus, hein. C'est assumé, ce fait de les avoir calibrés pour pouvoir passer sur les ondes et d'en faire finalement, de leur donner cet aspect simpliste, alors que l'album est vraiment à découvrir parce que je vous ai dit, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est vraiment très réussi. Munkebye a totalement laissé le saxo au placard sur cet album, j'ai envie de vous dire tant mieux parce que vous savez très bien que j'apprécie pas spécialement cet instrument. En tout cas moi je le trouve très bien cet album Animal, et je vous conseille d'aller le découvrir aussi, c'est étonnant et ça fait du bien. On change de style, on passe de la Norvège à la Suède, on va direction Stockholm, mais cette fois-ci pour du death metal. Toujours le 26 octobre, le groupe Bloodbath a sorti un nouvel album, un album intitulé The Arrow of Satan is Drawn. Donc Bloodbath, groupe qui agit depuis quand même quelques temps sur la scène métal, on peut considérer que c'est un all-star band de métal extrême, puisque le groupe a été créé par le guitariste Anders Nystrom, que l'on connaît en tant que membre de Catatonia, de Diabolical Masquerade, et puis le bassiste Jonas Renkse, également membre de Catatonia et d'Octobertide. Très vite, ils vont être rejoints par un autre grand chanteur-guitariste qui n'est autre que Michael Åkerfeldt, le fondateur d'Opeth, et puis par le producteur multi-instrumentiste Dan Swano, bah voilà, hein, qui est pareil, un palmarès totalement impressionnant. Depuis, le line-up a énormément évolué, le groupe a vu passer dans ses rangs quelques noms prestigieux, il y a par exemple eu Peter Tagrain qui a occupé le poste de chanteur. Peter Tagrain, c'est un grand producteur, mais c'est également il est également membre et fondateur de Hypocrisy et de Pain. Et actuellement, eh bien, Bloodbath se compose en plus de ses deux fondateurs, du batteur Martin Axenroth, qui s'est illustré avec Opeth et Witchery, et puis du chanteur Nick Holmes, membre fondateur de Paradise Lost, et puis j'allais l'oublier puisqu'il y est arrivé cette année, mais il est là quand même, il y a également le guitariste Joachim Carlson. Donc Bloodbath, ils avaient sorti un premier EP qui s'appelait Breeding Days en 2000, et devant les retours positifs du public, ils ont décidé d'enregistrer un album, c'est Resurrection Through Carnage, qui paraît en 2002. Deux ans plus tard, le combo sort Nightmare Mate's Flesh, qui connaît un succès important chez les amateurs de death metal, mais les changements de personnel vont obliger le groupe à prendre une pause assez longue jusqu'à la sortie en 2008 de l'EP Unblessing the Purity, suivi de très très près, hein, de quelques mois par The Fathomless Mastery, et puis ensuite faudra encore patienter 6 longues années avant de retrouver le groupe en 2014 avec l'excellent Grand Morbid Funeral qui sera largement plébiscité. Et comme le groupe sait prendre son temps, ils ont encore mis 4 ans de silence donc pour Bloodbath, qui a fait son retour fin octobre avec son nouveau méfait The Arrow of Satan is Drawn, un nouveau chapitre qui sonne comme une leçon magistrale de death metal méchant et punitif. Avec ce cinquième album, le groupe explore les limites de l'extrême en y incorporant le meilleur du death, du thrash, du black metal pour créer une véritable tempête de chaos qui s'abat dans nos conduits auditifs de façon implacable. Alors on n'en attendait pas moins de la part de musiciens aussi talentueux que ceux de Bloodbath, mais la maîtrise du son et l'exécution des titres de ce nouvel opus sont absolument parfaits. Le tout est combiné une nouvelle fois avec les thèmes de l'occulte, de l'horreur pure pour un résultat sombre et malsain à souhait. Le ton, il est d'ailleurs donné dès l'artwork de l'album qui a été réalisé par Eliran Cantor, qui a bossé avec Testament, Sodom, et qui présente ici une œuvre subtile qui accentue le mal sous-jacent du titre et qui crée un véritable message de provocation et de menace imminente. C'est tout un programme, hein. Et bien justement, on va en écouter un extrait de The Arrow of Satan is Drawn avec un titre qui s'appelle Bloody Side, sur lequel il y a trois invités. Il y a Jeff Walker de Carcass, John Walker de Cancer et Carl Willets de Bolthrower. C'est donc trois légendes du death anglais qui forment ici une chorale profane inédite qui saura réveiller les esprits les plus malveillants. Bloodbath sur Bike FM. death de haute volée à l'instant avec Bloodbath, groupe de death suédois, et un extrait du nouvel album The Arrow of Satan is Drawn qui est paru 26 octobre. On vient d'en écouter un titre intitulé Bloody Side, absolument excellentissime. Bloodbath donc à découvrir absolument, je vous dis, même la pochette est absolument malaisante, enfin voilà, c'est tout un ensemble. C'était la BO parfaite pour Halloween, hein, finalement, cet album qui est arrivé quelques jours avant. Et justement, bah, ceux qui ont eu une super bonne surprise pour Halloween, et bah, c'est les fans de Slipknot, hein, puisque le combo masqué de Des Moines a choisi cette date emblématique dans le calendrier pour dégainer enfin un nouveau titre et premier extrait de leur futur album qui normalement devrait arriver courant 2019, alors certainement pas avant l'été, il faut bien le préciser. Depuis la sortie en 2014 de l'album Five the Grey Scepter, bah, Slipknot avait publié aucun nouveau morceau, et malgré des déclarations selon lesquelles le groupe était en phase d'écriture et de compo depuis 2016, bah, il y avait rien du tout qui se profilait à l'horizon jusqu'à présent, hein, il faut bien l'avouer. Mais ça y est, cette fois la machine est lancée. Le chanteur Corey Taylor a d'ailleurs déclaré il y a peu que l'enregistrement du nouvel album ainsi que sa production devrait démarrer dès janvier, et que de nouveaux masques, de nouvelles tenues de scène étaient en préparation. Toujours selon Corey Taylor, ce sixième chapitre de la discographie de Slipknot s'annonce comme l'un des plus sombres de l'histoire du groupe. Féroce, énervé et brut comme l'enfer, hein, voilà quelques termes utilisés par Taylor pour décrire ce nouvel album. On a hâte d'entendre ça, enfin du moins moi j'ai hâte, je sais pas vous, mais voilà, j'ai envie d'entendre comment va évoluer Slipknot en 2019. Pour revenir un petit peu au titre qui est paru le 31 octobre, alors il s'agit de All Out Life. C'est un énorme carton sur les plateformes de téléchargement légal et les plateformes de streaming. C'est également un immense carton sur YouTube, puisqu'il y a déjà eu plus de 10 millions de vues. Imaginez-vous, 10 millions de vues pour le clip qui a été réalisé par Sean Crahan, qui n'est autre que l'homme au masque de clown au sein du groupe. Alors, avant d'écouter ce nouveau titre de Slipknot, puisque bien sûr on se l'est procuré pour vous, j'aimerais juste signaler que le combo sera de passage en France le 1er juillet prochain. C'est pour ça que ça nous fait un peu dire que l'album il va arriver dans ces eaux-là. Ce sera aux arènes de Nîmes. Tout de suite, voici Slipknot avec leur tout nouveau morceau All Out Life, et c'est pour vous sur Bike FM.
Tell me all the
Ça va, tout le monde est calmé, c'est bon. C'était Slipknot à l'instant avec All Out Life, le nouveau single du groupe qui est arrivé par surprise le 31 octobre dernier. Ça a été une très bonne surprise. Ça a été tout de suite un très grand engouement de la part des fans, hein, puisque voilà, il fait partie des meilleures ventes de singles. Il fait partie des clips les plus visionnés en ce moment, à part les amateurs de métal bien évidemment, mais voilà, 10 millions de vues sur YouTube, plus de 10 millions de vues, c'est pas une paille, c'est Slipknot et on attend avec impatience le nouvel album, donc dans quelques mois, hein, courant 2019, on aura certainement maintenant un petit peu plus de nouvelles et surtout plus régulièrement, notamment savoir un petit peu à quoi vont ressembler les masques, à quoi vont ressembler les tenues, et puis à quoi va ressembler l'album aussi, puisque vu ce que nous promet Corey Taylor, voilà, on en a de quoi se réjouir. Un dernier petit morceau peut-être avant de refermer l'émission avec la rubrique 20 ans dans tes dents, je vais vous proposer un petit coup de hard rock avec un groupe qui est peu médiatisé mais qui mérite vraiment le détour, c'est Blood of the Sun. Le 19 octobre, ils ont sorti l'album Blood, Sinkers and Love. Alors Blood of the Sun, c'est un groupe texan qui nous vient de la ville de Fort Worth, qui existe depuis 2002. Et en fait, il s'agit du side project de Henry Vasquez, qui est connu pour être le batteur du groupe de Doom, Saint Vitus. Alors dans Blood of the Sun, il est épaulé par un clavier qui s'appelle Dave Grider. Quant au reste du line-up, eh bien, il varie d'un album à l'autre et il a d'ailleurs été complètement revu sur ce dernier opus tout frais paru. Alors qu'est-ce que c'est Blood of the Sun ? Eh bien, c'est du hard rock très influencé 70s, influencé par des groupes comme Deep Purple, ZZ Top, Uriah Heep, Mountain et tout plein d'autres. D'ailleurs, Blood of the Sun utilise énormément les claviers de cette époque, comme le fameux Zorgamon qu'on va entendre dans le morceau qu'on va écouter d'ici quelques instants. Depuis sa création, le groupe a sorti 5 albums, ou devrais-je dire 5 déclarations d'amour à cette fameuse scène hard rock des années 70. Il y a d'abord eu un éponyme en 2004, il y a eu ensuite In Blood We Rock en 2007, Death Ride en 2008, Burning on the Wing of Desire en 2012, et enfin ce fameux Blood, Sinkers and Love fin mi-octobre, qui s'inscrit dans cette droite lignée, en rendant cette fois-ci largement hommage à Deep Purple, mais aussi au Southern Rock de Lynyrd Skynyrd, au hard rock nerveux de Motorhead, avec un titre dédié au dieu Lemmy. Vous l'aurez compris, ce nouvel album envoie propre et bien. On sent que la détermination et l'enthousiasme de nos Texans sont bien là, bien présents. Et on peut dire que le nouveau line-up est vraiment top, avec notamment un duo de guitaristes assez redoutable. On écoute tout de suite un extrait de Blood, Sinkers and Love, avec un morceau qui s'appelle, justement, c'est l'hommage à Lemmy, c'est Keep the Lemmys Coming. I got one thing. les excellents Blood of the Sun sur Back FM dans l'émission Check Meload avec le titre Keep the Lemmings Coming, extrait de Blood Sinkers and Love, paru mi-octobre. Et franchement, moi je surkiffe l'orgamone. Autant le saxo, c'est pas ma cam, autant l'orgamone, c'est un instrument que j'affectionne. Tout de suite après les guitares et les basses, voilà, c'est l'orgamone, mon instrument de cœur, même si je serais totalement bien incapable d'en jouer, ça c'est certain. Voilà pour Blood of the Sun, à découvrir absolument, bah, si vous aimez Deep Purple, mais si vous aimez aussi tout le revival qui connaît un très bel essor depuis quelques années. Justement, je pensais à Flayed en écoutant ce groupe. Alors, je pense que ce qui les rapproche, c'est ce fameux orgamone. Mais voilà, des très bons groupes qui surfent sur cette vague 70, il y en a beaucoup. Et ça fait du bien par où ça passe. Voilà. J'espère que cette petite sélection de nouveautés vous aura plu. On va maintenant faire un petit voyage à travers le temps avec la rubrique 20 ans dans tes dents, qui va nous transporter en 1998, année où Check Meload a débarqué sur les ondes de Back FM. Et on écoutait quoi alors en novembre 1998? Alors, on écoutait plein de choses, et on écoutait notamment le quatrième album des Parisiens de Misanthrope, intitulé Libertine Humiliation. Cette année, donc en 2018, Misanthrope fête ses 30 ans d'existence, puisque c'est à Livry-Gargan dans le 9-3 que la formation a vu le jour en 1988. Et son créateur, eh bien, c'est Philippe Courtois, chanteur et au départ aussi guitariste, qui va prendre le nom de SAS de l'Argilière et qui va se présenter dans Misanthrope comme étant un descendant direct du grand Molière. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, il va choisir d'utiliser comme prisme le personnage d'Alceste, donc le misanthrope, pour mieux refléter à travers ses chansons, eh bien, sa vision pessimiste et misanthropique du monde et puis aussi de la France contemporaine. Après deux albums qui vont être reçus de façon très positive dans le milieu du metal underground, Misanthrope va commencer ensuite à bénéficier d'une vraie exposition médiatique. Ça va être à partir de l'album Visionnaire qui est paru en 97, et ils vont devenir un des groupes incontournables de la scène métal française à partir de ce fameux album Libertine Humiliation, donc en 98. Alors, outre le personnage d'Alceste qui traverse les albums, l'autre particularité de Misanthrope, c'est son style musical, qui est un métal extrême et avant-gardiste, très alambiqué et très grandiloquent, du coup très théâtral, hein, donc ça, voilà, c'est tout un concept, Misanthrope. En ce qui concerne plus précisément Libertine Humiliation, contrairement à son prédécesseur, alors là il s'agit pas d'un concept album, même si bien sûr Alceste est encore le protagoniste principal et devient cette fois notamment nécromancier, ce qui va lui permettre de se réincarner dans le corps de SAS de l'Argilière en cette fin de 20e siècle. Je rappelle qu'on est en 98 à ce moment-là. Alors, c'est un album qui est doté encore une fois de textes très lyriques, très poétiques, remplis de métaphores. C'est un album qui nous parle de la vie, de la mort, en cette fin de siècle qu'Alceste considère apocalyptique. Les chansons dont les textes sont pour certains en français, pour d'autres en anglais, oscillent eux aussi entre passé et présent. Et le titre qu'on va écouter nous ramène à un des nombreux épisodes les plus sombres de la Révolution française, puisque ça parle de la contre-révolution paysanne de Vendée. Cette chanson, c'est l'écume des chouans, et c'est en fait une critique envers la religion, envers l'endoctrinement vers lequel elle peut parfois pousser quand on la pratique à l'extrême. Alors avant d'écouter ce très beau titre de Misanthrope, je voulais juste rappeler que le groupe a sorti il y a tout pile un an l'excellent Alpha X Omega, alors, que je vous conseille vivement si vous n'avez pas encore eu le temps de vous pencher dessus. Voici L'écume des chouans de Misanthrope, paru en novembre 98 sur l'album Libertine Humiliations. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures métal, il y aura une interview, je ne vous dis que ça. Très bon week-end sur Back FM, salut à tous!
Bye. au cœur où surmonter d'une croix, ont pris pour emblème le drapeau de leur roi.
Elle prend mal en plaisir aux exécutions, aux horribles massacres.